Vous êtes bien à l'écoute de RMC, les grandes gueules, donc avec JP, Camille et Exvin. Non, c'est une blague. Pardon, c'était. Nous sommes bien sur Fracture, sur la nouvelle saison de Fracture. On vient donc d'écouter une chanson de l'enfance de beaucoup de personnes. C'était donc Les Ogres de Barbac et Rue de Paname. Et on va attaquer notre dernier sujet, à savoir le nucléaire. Et peut-être que ça nous fera. Pardon, tu disais...
Le nucléaire dans le monde avec JP.
Voilà, et ce sera peut-être le début d'une future pastille d'iode, dans le sens où peut-être on fera des rubriques régulières sur l'actualité du nucléaire et de l'atome nucléaire.
Très
et que
dit.
Pour ceux qui ne le savent pas, la pastille d'iode est censée être le médicament miracle pour dès qu'il y a un problème nucléaire, on nous donne ça. Et donc voilà, ce sera peut-être l'occasion d'inaugurer ça. Mais en tout cas, je laisse la parole à JP pour cette thématique.
Oui, bah justement, le nucléaire, c'est un peu un serpent de mer, parce que à l'heure même où on avait décidé il y a deux jours de faire une partie de cette émission sur le nucléaire, eh bien depuis, c'est encore passé autre chose, puisqu'on a appris ce matin que la centrale de Flamanville avait été placée sous surveillance renforcée. C'est rigolo le vocabulaire qu'ils utilisent, parce que la surveillance renforcée, c'est celle qui était faite à Biarritz. On espère que celle qui surveillera Flamanville sera aussi efficace que celle de Biarritz. À Civaux, justement, c'était dimanche dernier. Non, le dimanche 25 août, par contre, à 14h du matin, on en a tous entendu parler, il y a eu un bruit. C'était pas une explosion, c'était comme un bruit de passage de changement de vitesse qui a réveillé un certain nombre de riverains. Et évidemment, quand il se passe ce genre de choses, en général, quand il y a un incident, ça fait pas de bruit, mais là, ça faisait du bruit. Ça a fait peur à un certain nombre de gens, pour tous les gens qui habitaient, évidemment, en bas, autour de la centrale. Alors, la première explication qui a été donnée, ça a été que un employé, un ouvrier, un technicien, je ne sais pas, a eu un geste inapproprié. Et là encore, on rêve sur les termes utilisés. On entend le geste inapproprié depuis quelques mois, quelques années. C'est des gestes d'un homme vis-à-vis d'une femme, par exemple... Dans le harcèlement sexuel, bah là, on a transformé la centrale en être humain. Et il y a un salarié qui a eu un geste inapproprié. Et ce geste inapproprié, bah, il a provoqué la fermeture de la vanne de circuit vapeur. Et bien évidemment, ça a permis que la soupape s'ouvre. Ça a fait du bruit. Sauf que ce qu'on n'a pas dit tout de suite, mais qu'on a dit après, c'est que le geste inapproprié du gars, il avait eu lieu après un incident. Il y a eu un premier incident, et le geste du gars, ça a été pour essayer de pallier les conséquences de cet accident. Sauf que, bon, il a fait le mauvais geste. Bon, finalement, cet incident ne s'est pas avéré très grave. De toutes les façons, c'est jamais grave si on écoute EDF. Mais on est quand même un petit peu confondu du fait qu'elle vient après trois incidents signalés par l'autorité de sûreté nucléaire à Civaux. On en a déjà parlé la dernière fois. C'est les diesels de secours qui se sont cassés la figure, qui n'ont pas marché. C'est l'indisponibilité de la turbine à combustion. C'est un défaut de serrage des connecteurs électriques. On ne va pas passer tout ça en détail. Ce sont des détails techniques. Mais surtout, ce dont on se rappelle, c'est le rapport de l'autorité de sûreté nucléaire dont le pivot, même le cœur, c'était de dire que la centrale ne respectait pas ses obligations de contrôle. Et en particulier, qu'elle avait oublié de faire un contrôle, simplement oublié de faire un contrôle qui était prévu, qui était obligatoire. Et ce contrôle, eh bien, il a mis en évidence le fait que, eh bien, pendant, je crois, trois semaines, la centrale de Civaux, il y aurait eu un incident, il n'y avait pas de circuit de refroidissement possible. C'est-à-dire qu'elle était au bord de... Il n'y a pas eu d'accident, il y en a assez peu. Mais normalement, il y a toujours quelque chose pour refroidir la centrale. Donc, toute cette série-là, à Civaux, on peut être relativement inquiet, mais on va voir qu'il n'y a pas que Civaux.
Ouais, est-ce que ces incidents ont des répercussions sur l'environnement immédiat dans la Vienne et dans la rivière et dans le département?
Est-ce que tu peux reposer ta question, s'il te plaît, parce qu'on n'a pas entendu le début.
Ah, pardon. Je disais à JP, est-ce que ces incidents que tu viens de nommer à Civaux ont des répercussions sur l'environnement immédiat, sur la Vienne, la rivière, tant la rivière que le département?
Bon, alors, je vais donner deux exemples. Hein. Il y a une association qui s'appelle l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, la CRO, qui existe dans tout l'Ouest de la France.
Hein ? Elle nous plaît à tous, celle-là.
Elle signale qu'à Châtellerault, sur la Vienne, les eaux de la rivière et de consommation sont contaminées à chaque prélèvement mensuel depuis décembre 2018. Ils font des prélèvements réguliers. Et les prélèvements donnent des niveaux qui peuvent atteindre 50 becquerels par litre de radioactivité. C'est la centrale nucléaire de Civaux qui en est à l'origine, dit la CRO. Mais on se constate aussi dans la Loire. Alors, je rappelle que la Vienne se jette dans la Loire et que la Loire, elle est alimentée aussi en radio, en plutonium et en tritium par les autres centrales nucléaires, dont Belleville, etc., Chinon, qui sont aussi sur la Loire. Et là, ce qu'ils mesurent, c'est le taux de tritium. Et en janvier 19, donc c'est récent, la consommation en tritium dans l'eau de la Loire avait atteint 310 becquerels par litre. C'est une valeur anormalement élevée, alors que les valeurs publiées par EDF et plus qui déterminent que le seuil d'alerte, c'est 100 becquerels. Et tout ça, ça va dans l'eau potable. Les mesures sont faites pas directement dans la Loire, mais dans l'eau qui est filtrée de la Loire et qui va ensuite dans le circuit d'eau potable. Et donc, le tritium est présent dans la Loire sur près de 400 km entre la centrale de Dampierre, en amont, et Nantes. Voilà, 400 km dans lesquels il y a du tritium. Et une partie de ce tritium vient des centrales et vient aussi de Civaux, bien entendu. Alors, tout ça, ça pour dire qu'on est en pleine gabegie en ce qui concerne le nucléaire. Et il y a la grande nouvelle qui vient de tomber, qui est en même temps une bonne et en même temps une mauvaise nouvelle. On va voir pourquoi. C'est que le commissariat à l'énergie atomique, le CEA, est en train d'abandonner le surgénérateur Astrid. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler d'Astrid. C'est le générateur qui devait être le générateur de quatrième génération. Alors, au plutonium, refroidissement au sodium. Sodium, je vous rappelle que le sodium s'enflamme très facilement à l'eau. Et alors, c'est intéressant de voir que les générations, c'est quoi ? C'est qu'à chaque fois qu'il y a un progrès technologique, qu'il y a une mise en œuvre d'une nouvelle technologie, on prévoit de la mettre en place et ensuite on prévoit celle qui va venir après, c'est la génération d'après. Et là, le problème du nucléaire en France, c'est que la génération avant Astrid, elle n'a pas encore été mise en œuvre, puisque c'est l'EPR. C'est-à-dire, les retards ont été tels dans l'EPR, on va en parler, qu'au moment même où on devrait démarrer la construction, ça peut durer 10 ans, hein, la mise en œuvre, où on devrait démarrer la mise en œuvre de cette quatrième génération, la précédente, l'EPR, ne marche toujours pas. Alors, c'est intéressant, on va revenir sur l'EPR, mais ce qui est intéressant, c'est que Astrid devait fonctionner avec une justification bien sûr écologique, c'est-à-dire qu'elle devait utiliser le plutonium issu des déchets radioactifs.
Du recyclage, quoi.
Du recyclage, c'est-à-dire que les quantités astronomiques de plutonium, le plutonium qui était issu du recyclage, était présenté jusqu'à présent comme un déchet, et grâce à Astrid, c'était présenté comme une matière valorisable. C'est-à-dire, c'était positif, alors qu'avant, c'était qu'un déchet dont on ne savait pas quoi faire. Avec la fin du projet Astrid, c'est une des justifications pour l'accumulation des substances qui disparaît. Les autres utilisations des produits recyclés, c'est l'arme nucléaire, qui va fabriquer, alors le recyclage va fabriquer aussi le fameux combustible MOX, qui est aussi un combustible qui devait être utilisé par Astrid. Et tout ça, ça tombe à l'eau. Le plutonium, qui a été accumulé au cours des années de centrale nucléaire, redevient un déchet. Et donc, ça ne justifie plus le retraitement qui est fait à la Hague pour produire le MOX. C'est-à-dire que les déchets, on ne va pas savoir de nouveau qu'en faire, si tant est qu'on en aurait fait quelque chose avec Astrid. On sait que la filière envisage cet arrêt depuis longtemps. On l'a su récemment. Elle vient d'en prendre la décision parce qu'il y a une réelle crise dans le nucléaire en France. On sait que la poursuite, une des raisons pour lesquelles ils arrêtent Astrid, c'est que la poursuite du projet, ça aurait coûté entre 5 et 10 milliards de plus. 5 et 10 milliards, à quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce qui manque pour les retraites? Qu'est-ce qui manque pour les maisons des femmes battues? 1 milliard par-ci, 2 milliards par-là, 3 milliards par-là. Là, la filière Astrid aurait coûté 10 milliards. Donc, on se demande où vont aller ces 10 milliards.
Il y a des choix qui sont faits.
Donc Astrid était une chimère qui est maintenant abandonnée pour l'instant. Et on va revenir un peu sur l'UPR. L'UPR, parce que c'est un peu la tarte à la crème, on en a tous entendu parler, même si on n'est pas spécialiste du nucléaire. Ça fait des années qu'on reporte la mise en œuvre de l'UPR français, hein, soit parce qu'il y a des défauts et des fissures dans le béton, soit parce qu'il y a eu des soudures qui n'ont pas été bien faites, et c'est reporté d'année en année, et en France, c'est encore reporté d'un an ou de deux ans. Mais il n'y a pas que l'UPR français. Le Guardian signalait récemment, donc un journal relativement sérieux anglais, que l'UPR britannique allongeait ses délais, que la facture s'envolait, que ça devenait un gouffre financier. L'UPR finlandais, qui était piloté par la France, eh bien, on vient de savoir que c'est un nouveau rapport. Il devait sortir, elle devait être construite en 2009. Eh bien, elle est reportée à 2020 maintenant, hein, après de multiples rapports.
Bah, au moins, c'est comme la centrale française. Au moins, ils sont sur Flamanville, ils sont réguliers sur les retards. C'est plutôt rassurant.
Alors, y a la centrale, l'EPR anglais de Hinkley Point, qui ne dispose pour l'instant qu'une jolie taille de dalle de béton écolo. Effectivement, il y a la dalle pour poser la centrale. Et que l'originalité de cette dalle, c'est qu'elle est faite avec un béton recyclable. Et alors, elle est présentée comme une dalle parfaitement écolo. Mais il n'y a toujours pas de centrale dessus. Il est fort peu probable que la centrale qui soit dessus soit réellement dans le même béton et recyclable. Et donc, cette crise réelle financière et technologique commence à provoquer un retour de bâton parmi les pro-nucléaires eux-mêmes, en particulier parmi la presse. En train nucléaire. Et on a l'impression un petit peu que les rats quittent le navire. D'un seul coup, les gens qui étaient des farouches partisans de l'EPR commencent à faire des titres, par exemple les Échos, dont on se rappelle pendant des années combien les Échos avaient vendu la politique nucléaire française et en particulier l'EPR, titre 10 ans de retard et des coûts hors normes. Pouf. L'usine nouvelle, pareil. Chantier cauchemardesque pour EDF.
L'usine nouvelle, précisons que c'est le journal du patronat de l'industrie, enfin qui est, ouais. Bon, c'est un journal comme les Échos, qui est le journal de l'actualité économique,
voilà. mais qui était les piliers de la propagande idéologique et la propagande industrielle. Et tous les médias, beaucoup de médias, dont Le Monde également, hein, qui ont soutenu bec et ongle les réacteurs EPR pendant 20 heures. Eh bien maintenant, commence à le lâcher.
Et du coup, tu nous as super bien parlé de la France. Est-ce que tu peux nous parler un peu du nucléaire au niveau international?
Oui, alors on va en parler.
Il faudra faire brièvement, puisqu'il va nous rester à peu près 3 minutes avant de passer
rapidement,
à la fin.
Très rapidement, je vais vous parler de ce qui se passe en ce moment, qui est assez rigolo. C'est la Russie. La Russie est en train de construire une centrale nucléaire flottante dans l'Arctique, au nord de la mer de Barents.
Est-ce qu'elle est recyclable?
Une centrale nucléaire flottante, on peut se demander pourquoi, étant donné qu'il n'y a personne autour, donc ce n'est pas pour fournir l'électricité directement aux populations, il n'y en a pas de population. Ça aura au moins l'avantage que s'il y a un incident, il n'y aura pas de population évacuée. Mais c'est pour autre chose. En fait, la centrale, elle va fournir de l'électricité aux plateformes pétrolifères qui sont en train de se construire tout autour, dans la calotte glaciaire. Et c'est assez rigolo, c'est-à-dire que le nucléaire qui se justifiait comme un truc écolo pour contrer les pollutions faites par le gaz naturel et par l'industrie pétrolière, le nucléaire va servir à multiplier les forages. Et bien sûr, donc, après les forages dans le monde, après avoir aidé à la fonte de la calotte glaciaire, puisque c'est ce qu'on dit, eh bien, cette fonte de la calotte glaciaire va permettre que, à la place des icebergs et de la calotte, s'installent des puits de forage qui seront alimentés en énergie, les puits de forage qui sont des véritables villes flottantes, elles aussi, qui vont être alimentées en électricité par ces centrales nucléaires. Juste un mot pour dire Fukushima, ça continue. Fukushima est arrosé pour être refroidi absolument tous les jours. Et que maintenant, il y a un problème, c'est que l'eau qui sert au refroidissement va dans des bassines, pas les mêmes dans celles que Camille a parlé. Et ces bassines sont pleines maintenant. Et le gouvernement japonais envisage de vider les bassines dans la mer. Et c'est le gouvernement coréen qui a porté le pet parce qu'il n'a pas envie d'avoir
cette, tout
la radioactivité sur ses plages.
À côté d'eux.
Eh bien, merci JP pour cette mise à jour sur le nucléaire, pour avoir partagé ces jolis projets d'usine flottante, de tout ça. C'est bientôt la fin de cette émission. On va passer un petit jingle pulsar derrière.
Allez, un petit jingle pulsar,
et
ça
puis,
fait plaisir.
Ce sera au tour des brèves.
Ils font toujours ce qui est interdit.
Pulsar.
Yes, sir.
Vous êtes bien à l'écoute de Fracture pour la dernière partie de l'émission, les brèves d'actualité.
Qu'on va faire rapidement. Et ça commence avec toi, Camille.
Ouais, tous les dimanches donc du mois de septembre et puis les suivants, hein, le 15, le 22, le 28, il y a des appels à rejoindre la ZAD qui s'est montée à Chauvet contre le projet de Surf Park. On rappelle que c'est un projet de grande bassine où il y aura des vagues artificielles à 10 km de la côte. Alors ça s'appelle Zap la Vague ou Zaptelier du Dimanche, vous pouvez les trouver sur Internet. Ils ont besoin de coups de main pour monter leur construction, animer des ateliers, n'hésitez pas à les rejoindre, c'est tous les dimanches en septembre au moins et probablement en octobre.
Et alors, dès samedi prochain, donc le 21 septembre, ce sera une rentrée sociale et écologique. Ici à Poitiers, vous êtes conviés à une manifestation unitaire entre écologistes et gilets jaunes. C'est co-organisé par Alternatiba, Gilets jaunes 86 et Greenpeace. Enfin, ça, c'est au cas où vous ne soyez pas en route vers Paris pour la manifestation nationale.
Et toujours le week-end du 21 et 22 septembre, il y a un rassemblement antinucléaire et féministe à Bure pour manifester contre la poubelle nucléaire de l'Europe qui est en train de s'y installer, avec enfouissement des déchets nucléaires à peu près un demi-kilomètre sous terre.
Le mardi 24, il y aura une manifestation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, notamment.
Les 28 et 29 septembre, c'est Vent de Bure, un autre week-end anti-nucléaire, avec manifestation le samedi, atelier autour de la question du nucléaire le dimanche, ce sera à Nancy.
Et enfin, le vendredi 27 septembre, vous avez deux rendez-vous. Alors, le premier, ce sera la prochaine émission de Fracture à 18h, et ensuite l'ouverture du local anarchiste communiste et féministe de La Grotte, au 43 rue de la Croix-Rouge à Poitiers. Ça commencera à 18h, vous pouvez venir y boire, manger, danser et discuter. Et enfin, je vous rappelle que si vous avez trouvé ça intéressant et que vous souhaitez réécouter cette émission, ou si vous nous avez pris en cours de route, vous pouvez la retrouver en podcast avec la date de l'émission sur le site de Pulsar, sous le nom d'émission de Fracture. Merci à tous de nous avoir écoutés, on est un peu en avance en plus.
Bah et oui, on va pouvoir.
Dans 15 jours, on va pouvoir raconter un petit peu nos vies, peut-être.
J'ai pas terminé la séance chez le psy, donc. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, nouveaux horaires cette année, 18h-19h et non plus 17h-18h. Donc, pour ceux qui ont des téléphones pseudo-intelligents et qui n'ont pas de mémoire, vous pouvez vous faire une petite notification sur Fracture, le marquer dans votre carnet ou ce que vous voulez.
Ou le tatouer sur le bras, peut-être.
Exactement, voilà, ou faire un post-it au boulot. On garde le même format, c'est-à-dire une émission tous les 15 jours avec entre chaque live en fait la rediffusion de l'émission précédente. On va essayer d'aborder toujours des sujets d'actualité. On va peut-être changer le format qu'on avait fait, une émission d'actualité et une émission un peu plus histoire sociale, histoire des luttes, ce genre de choses. Mais au programme, on aura une émission sur la retraite, sur la lutte des classes aux États-Unis, sur les 10 ans de la prison de Vivonne, a priori. Puis après, voilà, aussi en fonction de ce que les animateurs ou les gens ont envie de proposer. Sachant que vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail, Fracture. Donc c'est fracture@aotistique.
Fracture au pluriel ou au singulier?
Oui, Fracture au pluriel. Donc fracture@aotistique.org. Voilà, c'était donc Fracture. Merci à vous. Est-ce que vous avez un mot de la fin ou pas?
Non.
C'est un mot.
Z partout.
Et bah dans ces cas-là, on va lancer le générique de fin et puis bah on se dit à dans 15 jours.
À bientôt.
Merci. Au revoir.